Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants. Il est prévu une escale de 35 minutes.
Amis auditeurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver tous à l'écoute de ce chemin de traverse, prêt pour notre petite escapade hebdomadaire. Alors, impatient de découvrir le quatrième épisode de notre série Mouvements et traces ? Ce soir, le micro est à Anna Perraudin, sociologue, membre scientifique de la Casa Velázquez. Elle a fait de l'étude des migrations d'Indiens d'Amérique du Sud vers les États-Unis, puis vers l'Europe, son thème de recherche de prédilection. Ce soir, elle nous mène découvrir ces migrations indiennes à Madrid et elle nous aide à voir leurs spécificités et leurs points de convergence avec les autres migrants de leur pays d'origine. Mais laissons plutôt parler Anna.
Mouvement et traces.
Écoutez,
comprendre,
imaginer,
raconter les migrations.
Une émission proposée par Radio Exterior d'España et la Casa de Velázquez.
La vieja guardiana, allá en el llano florecido de maíz, frijol y papas. Allá a lo lejos se divisa la silueta de la mujer olvidada. Madre, mujer, abuela, bisabuela al mismo tiempo, nombres que son cortos para una vida larga. La vida que le enseñó a vivir en su humilde morada. No lleva las riquezas de la gran dama, aquella que sin mirarla pasa. Allá en el campo simplemente es esclava de su voz, su asadón y su sabiduría heredada.
Dans la plaine fleurie, de maïs, haricots et pommes de terre, là-bas au loin, on aperçoit la silhouette de la femme oubliée. À la fois mère, femme, grand-mère, des mots courts pour une vie longue. La vie qui lui a appris à vivre. Dans son humble demeure, elle ne revêt pas les richesses de la grande dame qui passe sans même la regarder. Là-bas dans les champs, simplement, elle est esclave de sa faux, de sa bêche et de son savoir hérité. On aperçoit la silhouette de la femme oubliée, à la fois mère, femme, grand-mère, des mots courts pour une longue vie. Anna Perraudin, bonjour.
Bonjour.
Les femmes en mouvement, à travers l'espace, le temps, à travers la vie, semble être un de tes sujets de prédilection.
Alors, effectivement, moi je suis sociologue, actuellement en résidence à la Casa de Velázquez, et j'ai déjà fait deux projets de recherche sur des thèmes qui reprennent ces questions de migration, souvent en donnant une place importante aux femmes, puisque j'ai fait un premier projet dans le cadre de ma thèse qui portait sur les migrations des Indiens mexicains vers les États-Unis, et que je suis actuellement en Espagne pour travailler sur un sujet qui est proche, qui est la migration des populations indiennes équatoriennes, cette fois, vers l'Espagne.
Et pourquoi spécifiquement les Indiens ? Pourquoi focaliser sur cette population ?
Alors, une des raisons principales, c'est que les migrations actuelles, les migrations contemporaines, sont caractérisées d'une part par leur ampleur. On a des flux migratoires d'une importance considérable, même s'il y a toujours eu des migrations dans l'histoire de l'humanité, évidemment. Mais elle se caractérise aussi par la diversification des profils des migrants qui viennent d'origines sociales de plus en plus diverses. On a à la fois des classes populaires, mais aussi beaucoup de classes moyennes, des élites qui circulent. Par l'origine géographique des migrants, il y a très peu de lieux dans le monde qui ne sont pas des sources d'émigration aujourd'hui. Et aussi par le fait que les migrants viennent des campagnes, mais aussi des villes. Plus de 50% des migrants aujourd'hui viennent des villes. Elle se caractérise aussi par la diversification du sexe des migrants, puisqu'on a des femmes qui bougent aujourd'hui autant que les hommes, l'âge de ces migrants, des enfants, des personnes plus âgées, pas seulement les hommes dans la force de l'âge qui ont constitué un peu l'imaginaire des migrations auparavant. Et puis, autre caractéristique, le fait que des populations qui constituent des minorités dans le pays d'origine se déplacent aussi hors des frontières. Alors, le cas des Indiens en Amérique latine est un exemple, mais il y a aussi d'autres exemples. On peut penser à la migration des Kurdes, on peut penser à la migration des populations berbères, kabyles pour les migrations maghrébines. Et toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que cette différence, c'est des populations qui étaient considérées comme différentes dans leur pays d'origine, qu'est-ce que cette différence devient à travers la migration? C'est la question qui m'intéresse. Et le cas des populations indiennes en Amérique latine permet de l'observer avec beaucoup de précision, parce que c'est une différence qui est construite depuis 5 siècles, depuis l'arrivée des Espagnols en Amérique latine, et qui a donné lieu à des phénomènes de discrimination, de racisme, mais aussi de construction culturelle bien particulière qu'on peut observer en étudiant ces migrations-là.
Allá en la mitad del mundo vive aún la vieja guardiana, guardiana del tesoro escondido, del espíritu, la autenticidad y la gracia. El gran señor la llama India, India abuela de la chacra, y al oír eso baja su mirada. No, abuela, no hagas eso, aunque seas olvidada. Olvidada por los señores a quien diste gloria y fama. Abuela India, anónima y olvidada, tú vales más que 1000 palabras. Más que el campo florecido, más que el río y que tu chakra.
Là-bas, sur la moitié du monde, la vieille gardienne vit encore, gardienne du trésor caché, de l'esprit, l'authenticité et la grâce. L'homme important l'appelle India, India grand-mère de la terre, et à ces mots, elle baisse le regard. Non, grand-mère, ne fais pas ça. Même si tu es oubliée, oubliée par ces gens même à qui tu as donné gloire et renommée. Grand-mère indienne, anonyme et oubliée, tu vaux plus que 1000 mots, plus que le champ fleuri, plus que la rivière et que ta terre. Plus que le champ fleuri, plus que la rivière et que la terre. De qui est ce poème, Anna?
Alors, le poème qu'on vient d'écouter est un poème qui a été écrit par Marisol Toapanta Loachamin, qui est une jeune femme d'origine équatorienne, née dans un village près de Quito, qui a migré en Espagne il y a 19 ans, qui a connu un parcours qu'on peut considérer caractéristique de beaucoup de migrants, avec quand même comme particularité que c'est un parcours d'ascension sociale, puisqu'elle a d'abord été employée domestique interna, donc dans les maisons, enfin en résidence dans la maison de ses employeurs, employée domestique externa, ne travaillant que la journée. Elle a travaillé dans un supermarché, et à présent, comme Marisol a fait des études à la fois en Équateur et en Espagne, elle a réussi à obtenir un poste de médiatrice sociale, travailleuse sociale dans un centre d'intégration pour les Équatoriens. Donc voilà, c'est un parcours d'ascension sociale, et Marisol a écrit ce poème en hommage à ses grands-mères qui sont des femmes indiennes, et pour revenir sur le racisme qu'avaient pu, les discriminations qu'avaient pu vivre ses grands-mères, et leur rendre une forme d'hommage depuis l'Espagne où elle est arrivée.
Et en Espagne, justement, tu parlais de racisme tout à l'heure, en Équateur. En Espagne, comment ces Indiens, qui sont une population tellement différente des autres, perçoivent ce racisme ?
Bon, c'est toute la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être indien ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà dans le pays d'origine ? La réponse n'est pas simple. Les définitions changent suivant les contextes, suivant les interlocuteurs. C'est une culture qui est en mouvement. Et qu'est-ce que ça veut dire être en Espagne ? On peut quand même donner quelques pistes. A priori, être indien, d'abord, ça veut dire s'inscrire dans une longue histoire de migration à cause des discriminations, des inégalités qui ont perduré à travers les siècles. Les populations indiennes sont généralement des populations très pauvres en Amérique latine, parmi les plus pauvres. Donc il y a eu depuis longtemps la nécessité de migrer vers les villes des pays d'origine pour chercher du travail. Donc les gens qui arrivent ici et qui sont d'origine indienne s'inscrivent dans ces trajectoires de migration familiale. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est le bagage culturel, d'une certaine façon, le fait d'avoir toute cette histoire derrière soi, cette culture spécifique, la langue aussi, qu'elle soit parlée ou pas. Même si cette culture, il faut la prendre avec précaution, c'est une culture qui évolue dans le pays d'origine déjà. La langue, par exemple, la langue, le quechua est peu parlé en Espagne, mais il était peu parlé aussi, il est de moins en moins parlé aussi en Équateur. Donc la migration n'est pas le seul facteur qui va modifier cette culture. Et dans l'extrait musical qu'on a écouté, on a écouté de la música tribal, qui est très intéressante pour ça, parce que c'est une musique qui reprend la musique traditionnelle andine, mais qui la mélange avec de la musique électronique. Et c'est ce qu'écoutent actuellement une bonne partie des jeunes en Équateur et aussi une partie des migrants qui sont ici. Et ça permet justement de voir comment cette culture continue à être vivante, mais elle se transforme. Et puis un troisième élément qui est très important aussi, sur lequel je voudrais insister parce qu'il est au cœur de mon travail, c'est la dimension du racisme. C'est ce racisme dont on a déjà un peu parlé et qui est vraiment au centre de mon travail, sur lequel je voudrais insister un peu. La question c'est, est-ce que ce racisme qui a été vécu dans le pays d'origine se reproduit en Espagne ou pas ? Et là, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, il y a des cas où ce racisme, effectivement, se transporte en Espagne d'une certaine façon. Et il y a des études qui montrent que les populations indiennes peuvent être doublement discriminées, c'est-à-dire qu'elles sont discriminées en Espagne à la fois par les Espagnols en tant qu'Équatoriens, Latinos, toutes ces appellations qui peuvent leur être apposées, mais elles vont aussi être discriminées par les Équatoriens, les migrants équatoriens, blancs ou métis, qui ne se considéraient pas comme indiens dans le pays d'origine et qui donc reproduisent ces hiérarchies au sein de la communauté migrante. Donc ça, c'est un cas de figure. Et un deuxième cas de figure qu'on observe aussi dans certains contextes, c'est qu'il peut y avoir un renversement des hiérarchies qui permet justement aux migrants indiens de valoriser en Espagne cette identité qui était source de honte ou d'humiliation dans le pays d'origine, parce qu'il y a un intérêt plus grand de la société d'accueil pour cette identité-là. Et donc ça leur permet de mettre en avant cette identité indienne qui devient un avantage dans certains contextes. Et c'est ce que nous dit Marisol dans l'extrait qu'on va...
Marisol, que nous allons écouter.
Quitter ton pays, ça te fait valoriser beaucoup de choses. Et ensuite, tu arrives ici et tu vois que tout est différent. Parce que les gens d'ici valorisent des choses auxquelles tu n'accordais aucune valeur. Ici, les gens t'aiment, t'admirent, te valorisent plus encore quand tu es indien, quand tu viens d'un peuple. Les gens te disent, raconte-moi ton histoire, tes ancêtres, tes grands-parents. D'où viens-tu ? Ça ici, ça te rend fier. Pas comme là-bas où tu essayes de le cacher. Aïe, je suis indien, j'ai un peu honte. Ma grand-mère est venue avant de mourir il y a 7 ans. Et tu pouvais la voir sur la Gran Vía avec son vêtement typique. Les gens la prenaient en photo sur la Puerta del Sol parce qu'elle était super typique avec ses vêtements et son chapeau. Mais tu t'imagines, ma grand-mère en Équateur, qu'on lui dise « Allez, on va te faire une photo ». Jamais là-bas, elle est source de honte et ici, d'orgueil.
Alors, bon, le témoignage qu'on vient d'écouter de Marisol, il faut quand même le remettre en contexte. C'est un commentaire, c'est un témoignage qui est très positif, qui présente de façon très positive le fait d'être indien en Espagne, avec l'idée que vraiment l'Espagne vous accueille avec les bras ouverts. Dans d'autres entretiens, Marisol évoque tout de même aussi le racisme qui peut être vécu en tant qu'équatorien. Et c'est intéressant quand même de remettre en perspective la vision qu'elle nous donne de l'indianité comme vraiment un avantage. On peut l'expliquer à la fois par que Marisol mette beaucoup en avant cette idée, on peut l'expliquer à la fois par son parcours personnel, donc comme on le disait tout à l'heure, elle a vécu un parcours d'ascension sociale, donc elle travaille dans un centre d'accueil pour les Équatoriens, donc elle est probablement confrontée à des personnes qui justement ont cette curiosité pour le pays d'origine, qui est une curiosité qui n'est pas partagée par l'ensemble des Espagnols forcément. Ça s'explique aussi par un contexte politique. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu une revalorisation des peuples autochtones de façon générale et donc la création d'espaces dans lesquels on peut mettre en avant les cultures indiennes et c'est valorisé. On peut penser à tout un ensemble de manifestations comme la fête de l'Inti Raymi par exemple, qui est organisée en Espagne par les ambassades des pays andins. Donc il y a quand même une attente de la part des populations européennes en particulier vis-à-vis de ces manifestations culturelles.
Donc c'est une expérience collective, mais c'est aussi, c'est peut-être surtout une expérience individuelle.
Alors c'est aussi effectivement une expérience individuelle qui se construit sur le plan intime et personnel. Et le fait d'avoir vécu dans certains contextes la revalorisation de cette identité indienne qui était bafouée dans le pays d'origine peut donner lieu, ou alors de... dans une histoire qui se construit sur plusieurs générations, d'appartenir à une génération qui a réussi à s'émanciper d'une partie des entraves qui cantonnaient les populations indiennes en bas de l'échelle sociale, ça permet aussi de se construire en tant que soi. Et c'est ce que nous dit aussi Marisol dans un extrait.
Et quoi de mieux qu'un témoignage de quelqu'un qui est directement concerné? Justement parce que mes grands-mères, on les a maltraitées, on les a humiliées. Enfant, j'ai vu tout ça, alors j'ai décidé que quand je serai grande, personne ne me traiterait comme ça, et à ma mère non plus. Et je suis partie étudier à la capitale, Quito. Pour nous, c'était source de fierté, la fierté de pouvoir dire « je peux être comme eux ». Ceux qui humiliaient ma grand-mère. Je peux arriver là où ils sont arrivés.
Que j'espère avoir pu montrer rapidement dans cette émission, c'est ce qui fait la spécificité d'une approche sociologique des migrations, en tout cas la sociologie telle que moi je l'entends, c'est-à-dire une sociologie qui peut être proche à certains aspects de l'anthropologie, une sociologie qui se veut proche des gens, qui recueille la parole des acteurs, mais aussi qui la remet en perspective pour essayer de montrer comment la parole des migrants est toujours une parole qui se situe dans un contexte social, dans une trajectoire personnelle, dans une interaction aussi avec l'enquêté. J'ai pas eu le temps de le dire, mais je suis européenne, blanche, et ça joue certainement aussi dans la relation que je peux avoir avec Marisol et dans le discours qu'elle va donner. Le discours qu'elle donne, qui est aussi un discours positif sur l'indianité, c'est un discours qui a été enregistré dans le contexte de cette émission de radio pour un public francophone et un public d'espagnol, donc ça influe aussi sur le discours. Donc c'est tout l'intérêt d'une approche sociologique de pouvoir remettre en perspective tout ça, mais toujours en restant à l'écoute de la voix des acteurs eux-mêmes, de la voix des migrants eux-mêmes, de leur expérience. Et cette voix, elle peut être véhiculée aussi par d'autres supports, des chansons en particulier, des musiques qui peuvent aussi très bien exprimer ce qu'est l'expérience migratoire. Et c'est le cas en particulier des chansons d'un groupe qui s'appelle les Tigres del Norte, et sur lequel j'aimerais conclure cette émission, qui est un groupe extrêmement populaire au Mexique et aux États-Unis, qui s'est chargé de transmettre l'expérience des migrants et qui raconte des chansons qui écrivent des chansons qui racontent vraiment l'expérience quotidienne des migrants et qui sont extrêmement écoutées à la fois par tous les gens qui rêvent des États-Unis et par tous les gens qui sont aux États-Unis et qui trouvent là les mots qui racontent leur expérience.
Eh bien, là, nous allons terminer par Los Tigres del Norte. Mouvement et traces, Anna Perraudin avec à la technique Anna Porras et Pedro Belastegui.
Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado. Nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador.
Je ne connais pas personnellement Marisol et croyez bien que je le regrette, mais quelque chose me dit que Marisol, totalement intégrée dans sa nouvelle ville et sa nouvelle vie, fête ces jours-ci San Isidro, le saint patron de Madrid. Des fêtes que nous allons découvrir, aidées en cela par notre gourmet maison, Luis Martín. Bien une halte, et c'est bien à une halte printanière que nous invitons nos auditeurs. Le mois de mai est le mois de Madrid. Le 2 mai, la ville et toute la région commémorent leur résistance face aux troupes napoléoniennes, la résistance d'un peuple abandonné à lui-même par les gouvernants, une résistance qui finira par un bain de sang et qui sera immortalisée par le grand peintre Goya. 2 semaines plus tard, Madrid, la ville cette fois-ci, célèbre son saint patron avec faste comme cette ville sait le faire. Le 15 mai, la ville rend hommage à San Isidro, le patron des laboureurs, des cultivateurs. Et oui, la ville n'a pas toujours été ville. Elle a même été jusqu'à, il n'y a pas si longtemps, une importante zone de production agricole. Alors le 15 mai, alors que le printemps est à son zénith, Madrid se souvient de son saint et de ce qu'elle a été. Oh. revenons un instant sur le personnage San Isidro. Isidro de Mello y Quintana était un cultivateur pauvre travaillant pour le compte du noble local Ivan de Vargas. La tradition orale locale lui attribue de nombreux miracles, le plus souvent liés, bien sûr, à sa condition de laboureur et à son mode de vie. Citons-en deux. On raconte que le noble Ivan de Vargas aurait vu, de ses yeux vu, son serviteur en prière alors que des anges labouraient la parcelle de terre. Tout comme on raconte aussi que le saint aurait sauvé son fils d'une mort certaine après une chute dans un puits. Depuis la margelle, San Isidro aurait fait remonter les eaux du puits et par conséquent son propre enfant. Ce dernier sera aussi plus tard canonisé sous le nom de Saint Ian. L'épouse de San Isidro était aussi une sainte, Santa Maria de la Cabeza, également vénérée à Madrid et ses environs. San Isidro, comme nous l'avons dit, est le saint patron de Madrid, des laboureurs et aussi des ingénieurs agronomes.
Del portillo a la alcanzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Vete, pero yo cambio al ministro cuando alguna se me cuela, como no suelta la tela, dos morralas un ministro y atizando la escandela.
Alors, même si à présent Madrid ne compte plus de vergers ni de jardins fruitiers à proprement parler, l'attachement à ce saint homme né ici reste fort et tous les ans, le 15 mai, une fête populaire est organisée près de son ermitage à côté du fleuve Manzanares, la Pradera de San Isidro. En réalité, les réjouissances s'étendent pratiquement sur une semaine. Le plus souvent, elles commencent par un défilé festif dans les rues du vieux centre historique, le Madrid de los Austrias, suivi d'une cérémonie officielle sur la Plaza Mayor avec discours, ou plutôt prégones, depuis le grand balcon de la Casa de la Panadería, une dépendance de la mairie de Madrid. Ce discours, entre hommage et appel à la participation, le pregón, est traditionnellement prononcé par un artiste, un écrivain, un sportif ou une personnalité aimée et appréciée des madrilènes. Ensuite, place à la fête, à la musique et à la danse. Le plus castizo, c'est-à-dire le plus madrilène, le plus conforme aux traditions et à la manière d'être madrilène, est de porter pour l'occasion le costume de chulapo et de chulapa. Béret et œillet à la boutonnière du gilet pour les hommes et robe longue en cotonnade près du corps avec un ou deux volants au bas, accompagné d'un petit foulard noué sous le menton et surmonté de deux ou trois œillets piqués dans la chevelure pour les femmes. Et voilà, le tour est joué et tout le monde est prêt pour aller danser le chotis. Une danse curieuse que le chotis. Les cavaliers ne bougent pratiquement pas. Ils ont les pieds figés au sol et se limitent à pivoter sur eux-mêmes. Leur dame se situe donc à l'extérieur et tourne autour d'eux. On aurait tendance à penser que ce sont elles qui conduisent. Or, rien n'est moins sûr. Autre curiosité, les partenaires se tiennent à distance, avec les bras toujours tendus. Matadero. Dans l'après-guerre civile espagnole, on commença à organiser des spectacles de corridas durant la semaine coïncidant avec la fête de San Isidro, depuis 1947 pour être plus précis. Et très vite, la Feria Taurina de San Isidro est devenue la plus importante rencontre de tauromachie au monde. Mais, Luis, comme pour toute fête qui se respecte, il doit y avoir à boire et à manger. Et il y a surtout des pâtisseries qui apparemment font courir le tout Madrid.
En effet, Iman, tu l'as bien dit, le 15 mai, eh bien, les Madrilènes se rendent en procession habillés de chulapos et chulapas à la Pradera de San Isidro pour boire surtout l'eau de la fontaine. On dit que c'est... Une eau qui purifie. Hein. Ils mangent aussi les célèbres rosquillas de San Isidro, tontas et listas, c'est des jamblettes de San Isidro. En fait, c'est la pâtisserie la plus typique des fêtes de la San Isidro. En quoi consiste? Si tu veux, je peux donner la recette.
Ah oui, surtout si elle n'est pas trop compliquée.
Non, en fait... Les éléments, c'est les ingrédients, il y a simplement de la farine. On a calculé à peu près pour 8 personnes. Pour 8 personnes, c'est 1 kg de farine, 250 g de sucre, 6 œufs, de la levure en poudre, de l'huile d'olive, du beurre et un verre d'anis. Alors, avant de commencer l'explication de l'élaboration, il faut dire que les rosquillas de San Isidro se divisent en deux spécialités, las listas et las tontas. Las listas, c'est celles qui sont enrobées de sucre, et las tontas, celles qui ne le sont pas.
Alors pour nos amis francophones, lista, ça veut dire maligne, intelligente, et tonta, ça veut dire bête.
Exactement. Alors, passons à la préparation. Il faut battre les œufs avec le sucre. On ajoute l'huile, huile d'olive, bien sûr, une cuillère de levure et le verre d'anis. Ensuite, tout en battant les œufs, on ajoute peu à peu la farine, tamisée. Il faut bien mélanger, surtout pour obtenir une pâte homogène. Ensuite, eh bien, on moule la pâte avec les doigts pour former des anneaux. On les enduit de beurre et on les place l'un après l'autre sur un plateau bien chaud, mais pas sur le feu. Alors, quand ils sont secs, on les enduit de jaune d'œuf et on les laisse reposer à peu près une heure avant de les mettre au four qui a été préchauffé auparavant, un quart d'heure. Et pour faire les rosquillas listas, c'est-à-dire celles qui sont enrobées de sucre, eh bien, il suffit de battre le sucre glace, les deux blancs d'œufs et un zeste de citron. On enduit les gâteaux une fois qu'ils ont refroidi et on les laisse sécher à la chaleur. Et c'est tout.
Donc, c'est les friandises, les pâtisseries les plus renommées et les plus connues pour ces fêtes.
Exactement. Il y a aussi les barquillos. Je ne sais pas si tu as entendu parler des barquillos.
Si.
On les trouve pendant toute l'année à Madrid. Mais encore plus pendant les fêtes de la San Isidro. Les barquillos, en fait, c'est sorte de gaufrettes. Alors, les vendeurs s'appellent les barquilleros. Ils sont habillés en chulapos, hein, avec une veste, une cape traditionnelle, et ils ont tous une roue de la fortune. Alors, sur laquelle tu fais tourner la roue, et c'est surtout pour miser, pour avoir plus ou moins de barquillos.
On peut gagner des barquillos.
Des barquillos, en effet. Et ça, c'est les grandes spécialités culinaires ou les grandes spécialités de la pâtisserie madrilène de la Feria de San Isidro.
Et toi qui as assisté à la Feria de San Isidro, à la Pradera de San Isidro, quelle ambiance on y palpe?
En fait, c'est une tradition qui a pris de l'ampleur au cours de ces 20 dernières années, surtout depuis la transition démocratique. Avant, c'était difficile. Les fêtes de la San Isidro étaient simplement des bals, la fête foraine. Mais maintenant, il y a les Madrilènes, Ils renouent avec les traditions, les anciennes traditions. Ils s'habillent en chulapos. Alors, tu arrives là-bas sur la pradera de San Isidro. Tout le monde a porté de quoi manger. Alors, les omelettes, la bouteille de vin, las rosquillas. Tout le monde s'installe sur la pradera et il faut boire de l'eau de la fontaine de San Isidro et manger. Et ensuite, eh bien, toujours, tu as des spectacles de musique, mais plutôt... du côté de Las Vistillas, la Plaza Las Vistillas, la Plaza de San Andrés, c'est le quartier de la maison d'Autriche, le quartier de Los Austrias.
En fait, à la Pradera, c'est un grand pique-nique, un macro-pique-nique.
C'est un macro-pique-nique, mais il faut dire aussi que la Pradera n'est pas excessivement étendue. C'est, la Pradera, en réalité, c'est je ne sais pas combien d'hectares, mais très peu, c'est autour de l'ermita del Santo.
Ça se remplit très vite.
Ça se remplit, il n'y a pas de place. Mais maintenant qu'ils ont aménagé les rives, la bordure du
fleuve.
Du Manzanares, eh bien, je crois que maintenant, il y aura
plus
de possibilités pour organiser les fêtes.
Bien, alors on peut boire de l'eau du Saint, mais on accompagne ça d'autres boissons.
Un petit verre d'anis.
Par exemple.
L'anis, c'est une des boissons typiques de Madrid.
Ça aide à pousser l'eau.
Exactement.
Voilà. Bien, alors merci beaucoup, Louis.
San Isidro bueno, San Isidro amable.
Mais à Madrid, de la douceur de vivre et de prendre son temps. Le plaisir de plonger dans la ville, de palper sa gouaille et sa joie. Malgré tout, notre escapade arrive à sa fin pour aujourd'hui, seulement pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thèmes et d'autres débats.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid. Del deseo viaja en ascensores, un agujero. Me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Las estrellas olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. Aquí no queda.